Enregistre tout le temps. Bonsoir les confinés et bienvenue dans le 15e numéro du magazine de Radio Armada sans transition. Nous en sommes à la deuxième semaine de reprise de nos émissions sous un format confinesque. Je vous avais proposé d'aborder la situation du secteur culturel et des artistes dans cette période si particulière sur deux émissions. Des problèmes techniques ne vous ont pas permis d'entendre la deuxième partie de l'émission à Nathalie Boileau la semaine dernière. Alors le jeudi 28, elle reviendra. Mais ce soir, mon invité est Mireille Riva. Bonsoir Mireille.
Bonsoir Gilbert, est-ce que tu vas bien?
Oui, on va très bien. Ce matin, donc Mireille, je voulais continuer ma petite intro. Ce matin, sur la radio du pouvoir, France Inter, il a été précisé que le montant du déficit serait de 120 milliards. Le déficit des caisses de retraite à côté est une affaire de petits bras, mais ce n'est pas ce qui doit nous occuper ce soir. En effet, le secteur du tourisme, par exemple, va bénéficier de 18 milliards d'aides pour un équivalent d'emploi de 2 millions d'emplois, soit un calcul moyen de 9 000 euros en moyenne d'aide par emploi. On dit bravo. Mais pour la culture, si on se livre au même calcul, c'est tout de suite plus compliqué. Il a été annoncé 10 millions d'euros pour la musique, 5 millions d'euros pour le spectacle, 5 millions pour le livre et 2 millions pour les arts plastiques, soit 22 millions. Y aurait-il, encore une fois, on est à 6 fois moins que pour le secteur du tourisme, donc y aurait-il 6 fois moins de salariés dans le secteur de la culture ou d'intervenants dans le secteur de la culture que dans le tourisme? On n'en est pas sûr. Alors, il y a eu, la semaine dernière, j'en parlais, le fameux discours du dompteur de tigres, vous savez, celui qui va chevaucher sur les tigres après la crise. Et depuis, c'est le flou artistique, bien sûr. On ne sait pas réellement ce qui est mis en œuvre et comment c'est mis en œuvre. Alors, est-ce que la culture restera le parent pauvre de la sortie de crise? Nous allons examiner cela tout au long de nos émissions, donc des trois émissions, avec les intervenants. Mais chacun peut se faire déjà et commencer déjà à gratter, à chercher sur Internet et se faire son idée sur ce qu'est le traitement de la culture aujourd'hui, la culture qui nous est si nécessaire comme l'air pour respirer et les masques aujourd'hui pour être protégés. Alors Mireille, bonsoir. Avant d'aborder ces questions-là, je voudrais pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas te poser une première question. Avant le confinement, avant ce moment, Mireille Riva se définissait comment? Sa carrière, ses engagements? Qui est Mireille Riva?
Ben écoute, moi je me situe comme une citoyenne qui a choisi de galérer, parce qu'être artiste c'est galérer, et de transmettre les choses poétiques, les choses théâtrales, et l'histoire surtout. Depuis 10 ans, mon obsession c'est de transmettre l'histoire et l'histoire artistique, mais l'histoire artistique elle ne se dessine pas sans la grande histoire. Il n'y a aucun artiste qui a existé sur cette terre qui n'est pas relié à l'histoire. Par exemple, les grands poètes ont traversé la guerre, après il y a eu le mouvement réaliste, il y a le mouvement dadaïste. Enfin, j'ai une conviction profonde que cette chose-là n'est pas assez transmise. On a mis la culture, on a mis l'idée d'artiste comme quelque chose où il y avait une barrière. Il y a les artistes, une espèce de chose dont on connaît très mal, enfin qu'on connaît très mal. Donc pour revenir à moi, mon choix, je suis une chanteuse et comédienne militante. Donc ça veut dire que j'ai embrassé.
Mireille, excuse-moi, mais c'est un peu passé de mode aujourd'hui, ça, le chanteuse militante. Si on écoute les grands penseurs culturels aujourd'hui, ça, donc tu serais une forme de dinosaure alors.
Je suis un dinosaure. Sans écailles, mais je suis un dinosaure. Mais on ne parle pas de dinosaure, on parle de contenu. Donc, je pense que on a exilé les artistes. D'ailleurs, avec le confinement, c'est un exil. On a exilé les artistes en leur disant surtout, ne faites pas de bruit. On vous donne un petit peu de miettes comme les pigeons et restez dans cet endroit-là, supplément d'âme. Essayez de réussir parce que du coup, on serait heureux de vous rencontrer parce que vous êtes des stars. Enfin, le système idéologique en place, il est partout. Il n'est pas la culture n'est pas à part du mouvement général de ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Et je pense que parler d'artiste, c'est parler d'écologie aussi.
Ah bon?
Ah ben oui, parce que si
Peux m'en dire plus là-dessus.
Oui, par exemple, il y a des artistes qui vont marquer un temps historique et qui ont trouvé le lien entre le succès, enfin la reconnaissance, on va dire, donc le succès, bien sûr, et qui arrivent à se situer, enfin bref, qui rassemblent des gens autour d'eux. C'est, voilà. Mais il y a tous ces petits artistes qui écrivent aussi des choses tous les jours à leur manière et qui insinuent des choses dans l'histoire artistique, qu'elles soient musicales, peinture, danse. Bon, voilà, mais si tu veux, il faut vraiment que tu m'interviewes là-dessus parce que c'est ça ma passion. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucun artiste qui ne sert à rien. Voilà. Chaque artiste amène sa petite graine. Sauf qu'on a remarqué en termes écologiques, c'est qu'on essaye de laisser la nature qui serait efficace et l'autre, on la supprime. Hein, on est d'accord. Donc, ce mouvement écologiste qu'il faut dessiner pour la vie des gens, il existe aussi à travers la culture. C'est aussi de l'écologie.
Alors, tu dis, j'aimerais que tu m'interviewes, mais en même temps, moi, je suis juste un passeur. Donc, ma question, elle est simple. Aujourd'hui, la culture, elle est traitée, je suis d'accord avec toi, comme un pis-aller, comme un...
Supplément d'âme, quelque chose qui
fait... Oui, tout à fait, un supplément d'âme, mais en même temps, je suis d'accord avec toi sur l'aspect quelque peu charitable de l'attitude du pouvoir qui dit ben, vous avez besoin de ça, donc on va vous donner quelques subsides pour que vous nous foutiez la paix. Mais est-ce que finalement on rejoint pas l'idée et l'image de l'artiste maudit qu'il ne crée que quand il crève de faim? Est-ce que c'est pas ça que cherche le pouvoir finalement, à aller dans le sens de cette image-là?
C'est très compliqué en 40 minutes d'expliquer le système de cette histoire, de la personne qui décide de rentrer un peu dans les ordres artistiques et qui donc a une raison de le faire parce qu'elle a des convictions, qu'elles soient esthétiques, politiques, elle a des convictions. Et elle est sûre qu'elle fait partie de l'outil qui va permettre de défendre ses convictions et son style et tout ça, et l'écriture. Bon, bref. Mais par exemple, je voudrais que, puisqu'on a des... Tu vas voir, ça va être difficile à me maîtriser, mais je vais quand même...
C'est pas grave.
Non, mais je veux dire, un endroit que tu as évoqué sur les fameuses miettes qu'on veut donner aux artistes.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Aujourd'hui, ce qu'on appelle intermittent, c'est un mot qui ne veut rien dire. C'est comme si on te disait à toi, tu es sécurité sociale, ça n'existe pas. Intermittent, c'est un statut, d'accord? Un statut technique, on va dire. Je veux dire, intermittent, il y a les techniciens, les chanteurs, etc. Mais il y a une chose qu'on oublie de parler, c'est du salariat. Or, si un artiste n'a pas de salaire, même si c'est un salaire, on appelle ça des cachets, donc, tu vois, c'est pas
des cachets
sanitaires, mais si on n'a pas un contrat de travail qui nous engage, on n'a absolument pas le droit à ce statut d'intermittent. Donc, il faudrait que les politiques entendent que ce mot-là, c'est un mot piège. Il faut être clair avec ce qu'on entend. Alors, évidemment, dans la culture, il y a plein de choses. Il y a pas... Mais si on parle de ce que tu m'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce que tu as fait pendant, etc. Moi, je suis la retraitée. Donc, je suis une militante qui continue mon statut de chanteuse militante avec ou sans argent. Ça, c'est un truc de citoyen. Bon, il y a plein de citoyens qui chantent d'ailleurs et qui font un tort fou aux artistes parce qu'ils chantent bénévolement souvent. Donc, c'est compliqué. Mais on va parler, pour que les choses deviennent claires, de ce statut d'intermittent qui ne veut rien dire. Intermittent veut dire artiste qui a un contrat de travail. Et après, quand il a suffisamment fait de contrats, il a suffisamment de contrats de travail ponctuels, il va avoir droit à une assurance chômage. Mais s'il n'a pas de salariat, il n'a rien du tout. Et des artistes qui n'ont rien du tout, donc qui ne sont pas intermittents du spectacle, il y en a plein. Il y en a.
Donc, si je t'écoute, la mesure prise par le pouvoir qui consiste à dire, pour les fameuses 507 heures, si je ne me trompe pas, voilà, on va proroger de X mois. Mais ça veut dire qu'en attendant, s'il n'y a pas de contrat, si les théâtres sont fermés, c'est de la poudre aux yeux.
Alors, attends, on va prendre justement, prenons cas par cas. Bon, les artistes qui ont droit à rien, ceux qui ont droit à rien, ils n'auront droit à rien. Et ils n'auront pas une intermittence qui va se prolonger d'un an. Donc, on va parler des artistes qui ont eu suffisamment de contrats de travail et qui peuvent, qui ont donc eu des acédiques, des intermittences, et qui vont prolonger d'un an. Donc, ça, c'est une bonne chose. Par contre, on ne résout pas la... On va dire, j'ai pas les chiffres, tu vois, je ne savais pas parce que je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas les chiffres pour te donner des vrais chiffres. Mais des artistes qui arrivent à bouffer et qui arrivent à avoir de l'intermittence, bon, y en a la moitié. Il y en a la moitié. Parce que, d'abord, il y a peu de gens qui considèrent bien l'artiste. L'artiste, je ne parle pas. Bon, y a des gens qui sont dans des compagnies de théâtre et qui vont faire une création. Et dans ce cas-là, ils ont un mois ou deux mois de travail. C'est clair. Mais je parle des artistes musiciens. Par exemple, mon fils, il accompagnait Manu Dibango. Comme tu sais, il est mort, Manu. Donc, il y avait
une
tournée. Ben, il n'aura pas. Mais il a quand même de l'intermittence. Donc, il va, la position de Macron va lui permettre d'enjamber l'année blanche. On appelle ça l'année blanche. Mais lui, il avait la chance d'accompagner une star. Mais les artistes qui font, les artistes de jazz, par exemple, qui sont des gens exceptionnels, souvent, mais qui gagnent rien du tout. Ils vont travailler dans un, comment on appelle ça, dans un bar où ils gagnent. On leur donne la main à la main. On leur donne pas. C'est de pire en pire, on va dire. Alors, l'état des lieux des artistes avant le confinement et avant le coronavirus, c'était tragique. Et ça va continuer à l'être. Parce qu'en plus, on a un ministère de la Culture qui ne ressemble pas à grand-chose quand même. Hein.
Non, c'est un fantôme. Mireille, je te propose qu'au stade où on en est, parce que l'émission n'a que dure que 40, 30 minutes et donc ça va très vite, tu as choisi de nous faire écouter un de tes titres. Et donc, je vais demander à la salle de préparer le titre. Comme on n'est pas dans le même studio, Mireille, je te précise... parce que dans le studio, d'habitude, Alassane, il coupe tous les micros, il coupe pour tout le monde. Là, on ne peut pas parler pendant que tu passes parce qu'effectivement, on n'est pas au même endroit. Je ne sais pas où tu es en France. Moi, je suis à Villejuif.
Je suis dans Lyon. Je suis à Lyon.
Tu es à Lyon, tu vois. Ben, moi, je suis à Villejuif et Alassane, il est en bas dans le studio puisque c'est le seul qui sort d'entre nous.
Passons la balle solidaire pour que ça situe un peu mon travail.
On va passer. Donc, on a calé sans la nommer. Donc de Mireille Riva que j'aime
pas
beaucoup.
Pas de Mireille Riva, ça c'est de Moustaki. Hein.
Oui, de Moustaki, mais moi j'aime beaucoup comment tu la chantes. Sur les cinq titres que tu m'as envoyés, je trouve celle-là très très belle. Donc on va et l'interprétation et on reviendra dessus. Alassane, à toi.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en colère. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai aux fruits sauvages. Bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie. obligé de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. On la matraque et on la traque. Elle se soulève, se met en rêve. On l'emprisonne, on l'abandonne. Nous donnons.
Alors j'aime beaucoup l'interprétation que tu as faite de cette chanson et en même temps je l'ai choisie pour deux raisons. D'abord, le côté, la musicalité m'a énormément plu, mais au-delà de ça, je l'ai choisi parce que, est-ce que finalement la question qui est posée aux artistes comme à la société, au corps social, elle n'est pas justement de se poser la question de la révolution, et c'est un bien grand mot, mais y compris de la manière dont on va sortir de cette situation dans laquelle on est, et de poser des questions avec, de pas avoir peur de poser des questions avec force. Et quand je dis avec force, c'est qu'on voit bien quand on écoute ce qui se dit sur les médias officiels, qui matraquent à longueur de journée, c'est il va falloir que le petit peuple paye cher cette crise, parce qu'il ne faut pas toucher au capital, il ne faut pas toucher aux revenus. Le dernier exemple qui vient en tête, c'est Sanofi, qui explique très tranquillement, après avoir bénéficié de soutien financier du gouvernement français, bah, qu'il va aller vendre d'abord, si jamais il trouve le vaccin aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, les prix sont libres, et qu'il va pouvoir ainsi rincer de manière abondante ses actionnaires. Est-ce que finalement, cette crise, elle ne nous renvoie pas à ce qu'on a toujours connu, c'est-à-dire un affrontement de classes fort entre une partie des gens et là-dedans, le rôle des artistes après, tu le vois comment ?
Alors moi, j'ai un problème avec ça, parce que si on remonte dans l'histoire du XXe siècle, on peut dire qu'il y a une vraie culture ouvrière qui a traversé ce XXe siècle. Et il y a un vrai fossé qui s'est passé. Mitterrand est arrivé au pouvoir, il y a eu une classe sociale, une caste sociale d'artistes qui ont entouré le projet de Mitterrand, puis après il y a un gros vide. Et moi je ne vois aucun parti politique penser que la culture est une force incroyable. Alors, en tant qu'animation culturelle, c'est-à-dire on anime le peuple, on met un couvercle sur la tête du peuple pour pas que ça explose, on leur donne des petites miettes comme ça. Je parle de la culture, hein, je parle de l'argent. Pour moi, il y a un boulot à faire qui est immense. Comment, et tu as raison en fait, comment ce petit peuple... la culture ouvrière a engendré des artistes quand même. Moi, j'ai connu, parce que je suis une vieille dame à Mouloudji, j'ai connu plein de gens, des gens qui, eux, étaient inscrits dans cette histoire. Ils avaient choisi artistes, mais ils venaient de ce peuple, petit peuple. Et il y a des choses qui bougeaient. Alors, je ne peux pas faire de la sociologie en 5 minutes à la radio. Je pense qu'il y a un vide énorme. Il y a encore des compagnies. Parce que, en fait, quand on évoque ça, on évoque quand même le collectif.
Oui, bien sûr.
Quand tu vois le Docteur en 36. Mais il y a un grand vide parce que les municipalités, par ailleurs, font ce qu'elles peuvent. Elles essayent de trouver le biais entre la création et l'animation culturelle, et elles choisissent l'animation culturelle. Quelque chose que le petit peuple peut comprendre. Et moi, j'habite la ville de Jacques-Ralite, Aubervilliers, quand même, c'est. Aubervilliers, c'est vraiment Jacques. Il avait une vraie pensée sur cette culture.
Absolument.
Hein? Donc, si tu veux, il avait une pensée, mais elle est plus là. Cette pensée qui dit n'importe qui peut aller au théâtre et comprendre. Enfin voilà. Et on va essayer d'être exigeant. On va pas donner des miettes de culture à des gens. Voilà. Alors, c'est compliqué parce qu'on est dans une société de distraction. La télé met le tempo quand même, et sur le plan idéologique du choix politique et du choix idéologique de la culture.
Alors en même temps que tu dis ça, je voudrais prendre un exemple à contre-pied pour t'embêter un peu, mais c'est normal, je suis là pour ça. Pendant le confinement, on a vu par exemple Arte, alors tu vas me dire c'est Arte, mais La 5, ressortir par tout un tas de spectacles de la Comédie française ou de spectacles comment dire d'abord pas très faciles, c'est pas du boulevard, à des heures de grande écoute et faire le pari de la culture, justement. Donc, est-ce que c'est si noir et si blanc, ou est-ce que finalement on n'est pas dans une bataille permanente entre ceux qui, comme moi, ont été nourris au théâtre de Santelli en noir et blanc quand il était môme et qui a vu tous les grands classiques comme ça. Oui, je suis vieux aussi. Et aujourd'hui, est-ce que finalement, il y a deuxième aspect. Quand j'ai préparé l'émission, j'ai commencé à regarder quel argent était mis et qui mettait l'argent sur la culture et en sortir de la crise du coronavirus. Et quand on fait le compte, on s'aperçoit que les régions, les grandes villes, les métropoles vont finalement mettre plus d'argent pour aider les compagnies, les théâtres, les festivals, etc., que l'État ne va lui-même en mettre. Est-ce que, par rapport à ce que tu viens de dire sur Aubervilliers, est-ce que finalement, est-ce que c'est aussi simple que ce que tu dis, ou est-ce que c'est…
Ah ben moi, j'ai
voilà, est-ce que c'est pas plus contradictoire ?
J'ai pas dit que c'était simple, j'ai dit simplement qu'il y a un enjeu.
Non, mais je… Oui.
C'est-à-dire qu'il y a un enjeu, c'est-à-dire, si tu es maire d'une ville, tu vas pas… mettre des choses tellement élitistes où finalement il n'y aura personne qui viendra voir, et c'est l'argent des citoyens. Donc c'est compliqué, justement, c'est sûrement pas simpliste. Mais si tu veux, le fossé s'est creusé, si tu veux, entre les décideurs et ce qu'on met en vitrine. Parlons des choses simples, on est dans l'univers de la consommation. Donc, il faut consommer vite. Il n'y a pas le temps. Pour un artiste, par exemple, on ne va pas revenir sur la compagnie, mais l'artiste, il n'a pas le temps de se développer. Il n'a pas le temps de construire quelque chose. Il faut tout de suite qu'il soit rentable. Un artiste de la chanson, il faut qu'il soit rentable. Moi, je vois la petite, comment elle s'appelle, qui est au 8 heures de la musique, la petite Corse, Luciana. J'arrive jamais à me rappeler de son nom. Elle s'appelle comment? Elle a les cheveux tout raides, comme ça. Enfin, bref. Clara, comment elle s'appelle?
Clara Luciani.
Luciani. Clara Luciani. Bon, ben, elle est sortie, elle a fait un truc sympa, et déjà, il la formate, il l'enferme dans quelque chose. Les gens n'ont pas le temps de construire. Ils arrivent quelque part, déjà, il faut qu'ils remplissent des salles de 5000 personnes pour que ça rembourse la production. Donc, c'est pas normal. Tout ne correspond pas. C'est pour ça que je te parlais d'écologie tout à l'heure. Un arbre, il pousse pas en 5 minutes. Un arbre, il met 100 ans à devenir un arbre qu'on regarde et qu'on est en admiration devant. Donc, si tu veux, la culture, c'est proche de… C'est comme de l'écologie, c'est pareil. Il faut évaluer les choses, il faut vérifier la terre, le terreau, enfin, bon, voilà. Donc, ce que tu dis évoque surtout le collectif. Donc, les gens qui font du cinéma, par exemple, il leur faut préparer… Pour tourner un film, pour commencer à tourner, un an avant, ils vont pleurer dans chaque endroit où il y a de l'argent. Mais bon, le gouvernement est en train de se retirer de pas mal de choses. Moi, si tu veux, je ne peux pas parler en 40 minutes, par exemple, de ce qu'ils ont mis, qu'ils ont mis en place, qui s'appelle le Conseil national de la musique. Je ne peux pas en parler de ça, tu vois. Parce que c'est l'emplâtre, en permanence, c'est l'emplâtre sur la jambe de bois. Les choses doivent être. On met de l'argent là, plouf. Ça doit être efficace.
Est-ce que ce n'est pas finalement significatif que plus on avance dans le temps, tu parlais tout à l'heure de l'arrivée de Mitterrand et de son fameux ministre de la Culture, que je ne vais pas citer, parce que sinon il va avoir les jambes qui vont enfler, la tête qui va enfler. Ce garçon, il a tout le temps. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas significatif que plus ça va et plus les ministres de la Culture sont nuls?
Oui, sûrement. Oui, c'est lié à tout ça, bien sûr.
Parce qu'ils sont… Enfin, oui. Le dernier, là, je ne veux même pas prononcer son nom non plus, mais le dernier…
Il s'appelle Franck Riester.
Oui, je sais. Il s'appelle Franck Riester.
Voilà,
il est transparent. Il n'existe pas. Enfin, on a eu avant lui deux ministres de la Culture sous Hollande, dont une était une nullité la plus complète. Enfin, voilà. On se demande… Si finalement, ce n'est pas traité comme une sous-catégorie obligatoire dans les gouvernements, mais finalement, on s'en fout, la culture.
Bah, tu peux répondre toi-même, de toute façon.
Oui, mais c'est à toi que je pose la question.
La culture, ça coûte de l'argent. Alors, ce n'est pas vrai. Par exemple, quelqu'un nous écoute et dit « Oui, mais il n'y a pas de fric, comment on fait ?» Oui, mais la culture apporte de l'argent. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Le Festival d'Avignon, qui est supprimé cette année, c'est catastrophique pour les commerçants, par exemple.
Bien sûr, bien sûr. qui se plaignent des hippies, etc., mais qui sont vachement contents de tous les centaines de milliers de visiteurs qui viennent au Festival d'Avignon. Mireille, on arrive au bout de la demi-heure. C'est hyper court, c'est frustrant, mais en même temps, ça existe même pendant le confinement. Ce que je te propose, Mireille, c'est que quand on va revenir, peut-être au mois de juin, j'en sais rien, on verra, mais quand on va revenir à un format normal d'émission un peu plus longue, puisque sans transition, d'habitude, ça dure 1 heure et demie, je te propose que tu reviennes. Je réinviterai tous ceux qui sont intervenus dans cette émission pendant ce format un peu spécial, compressé, comme on dit, confiné et compressé, de manière à ce qu'on ait une discussion à bâton rompu autour des micros à la radio. Et c'est avec plaisir que je t'accueillerai autour de la table de la radio si tu es d'accord, si tu es sur Paris et non pas sur Lyon, parce que là, ça sera un peu plus compliqué, on le fera autrement. Voilà. Donc, on va bientôt s'arrêter, mais avant de s'arrêter, je voudrais dire deux, trois petites choses. D'abord, je suis ravi d'avoir commencé, parce qu'il faut considérer notre émission d'aujourd'hui juste comme une mise en bouche, un zakouski, comme diraient les Russes. C'est le début de quelque chose sur lequel on va continuer de travailler. Parce que dans ce magazine Sans Transition, mes collègues abordent le sujet, mais dans ce magazine Sans Transition, autour des questions culturelles, je pense que c'est majeur qu'on alerte, qu'on pousse les feux, qu'on dise ce qu'on a à dire et qu'on laisse la parole aux gens qui sont des gens de culture, qui animent ce pays culturellement et leur laisser la parole à eux. Je trouve que c'est bien parce que, d'un point de vue, j'allais dire, politique et public, on se rend bien compte que, la parole est donnée le jour, par exemple, l'interview qui a été faite sur la culture le lendemain de l'intervention du chasseur de tigres. On a fait intervenir quelqu'un qui est un amuseur public sur TF1 et qui a des millions de. Qui est la 120e ou fortune mondiale, je ne sais plus, mais il a un pognon fou, qui est Arthur. Faire venir Arthur sur la culture et parler de la culture, c'est comme si on me demandait à moi. Je sais pas, mais d'aller dans la cuisine d'un 3 étoiles et de me comparer au chef 3 étoiles. Voilà, c'est moi, je sais faire des frites, mais bon, c'est tout, ça va pas plus
Mais
loin.
je
Il faut
raconte
être
bien que
sérieux.
la culture pour des tas de gens, pour ces gens-là en particulier, c'est distraire le peuple. C'est pas le
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on
écouter.
disait tout à
Parce
l'heure.
qu'il n'y a pas des gens comme ça et les autres qui doivent être en admiration. Je veux dire, il y a des gens qui doivent délivrer des histoires pour qu'on les réécrive, on les chante, on les transmette. On est des antennes, les artistes. On doit capter les moments de l'histoire. Moi, j'ai rien envie d'écrire sur le confinement parce que je pense qu'on est dans un moment de gangstérisme de haute volée. Donc, à la limite, c'est la bande à Bono qui est à la tête du gouvernement, je sais pas. Mais si tu veux, non, mais c'est important. Moi, je te jure que j'en suis. Moi, je voulais pas attraper cette maladie. J'ai été confinée, je me suis sauvée parce que j'en pouvais plus. Mais j'ai ouvert mon jardin à des jeunes filles, des jeunes femmes avec leurs bébés et tout. Si tu veux, je suis plus malade de vivre la saloperie et les choses qu'on voit qui va, parce que ce qui nous dirige, ça me rend malade. C'est indécent. C'est indécent par rapport à des vieux qui sont morts tout seuls dans leur EHPAD. Parce que dans une EHPAD, je crois qu'on dit une, hein,
Mais
on compte 4,50 € quand quelqu'un paye 3 000 € par mois, 4,50 € par jour pour la bouffe. Donc ça, on est dans un monde de gangsters, avec des gens qui ont plus ou moins comment dire, enfin pas la dignité, mais légitimes, sont légitimes d'être gangsters et pas d'autres. Il y en a qui sont en prison, d'autres qui sont au gouvernement, mais moi je vois pas.
Pour être gouvernement, il faut avoir fait option gangster à l'ENA, hein, mais ça, c'est pas. Voilà, on va s'arrêter là, Mireille, parce qu'on pourrait continuer comme ça, mais malheureusement, le format est celui-là. Avant de terminer, je voulais juste dire, donc, 28, on se revoit, mes chers auditeurs, enfin, on s'entend avec Nathalie Boileau. Mais la semaine prochaine, je n'avais pas prévu d'émission. Et puis. Voilà, vous aurez une petite surprise parce que j'aurai à l'antenne non pas un, mais deux intervenants qui sont des jeunes gens qui font de la musique. Les deux sont salariés par ailleurs, et les deux essayent de développer une activité musicale, ce dont on parlait tout à l'heure, dans leur coin, dans des modes différents. Et on les aura au téléphone tous les deux, enfin en ligne tous les deux. Donc le 21, je reviendrai avec un aspect un peu particulier. De ceux qui ont continué dans ce moment d'essayer de faire des choses en solidarité, qui n'étaient pas engagés forcément politiquement, mais qui, au travers de leur engagement culturel, se sont trouvés au milieu d'une passerelle qui est une passerelle, j'allais dire, d'intelligence, de solidarité, et en découverte, à travers ce moment du confinement, d'un monde politique qu'ils ignoraient, ou en tout cas qu'il n'était pas le leur. Donc voilà, je vous expliquerai comment je les ai trouvés, c'est tout à fait par hasard, en cherchant sur le net, etc. Et ben donc, la semaine prochaine, on se verra le 21, avec deux jeunes inconnus, que je ne connaissais pas non plus, qui vont aller peut-être à la rencontre de leur public. Voilà, et on reverra Mireille, avec plaisir et avec joie, quand on pourra sortir de cette situation, comme que tu disais tout à l'heure, ubuesque, je suis d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup, Mireille, de ta participation à cette émission. Mon cher Alassane, encore une fois, merci à toi, parce que toi, tu sors, tu vas dans les studios, alors que nous, on reste confortablement, entre guillemets, chez nous, même si on est confiné, mais on est plus confortable que toi qui prends ce risque. Encore une fois, merci à toi, Alassane. Sans toi, les émissions ne pourraient pas se faire. Ciao. Vous écoutez Radio Armada.fr. Vous écoutez Radio Armada.fr jusqu'au bout.